Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Il est exactement 8h sur Radio Classique. Je vous souhaite une excellente journée, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Voici les titres de l'actualité.
8h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Bernard Poirette.
Si vous êtes en Mayenne, attention, vous serez obligé à partir d'aujourd'hui de porter un masque, même en extérieur, et ce, dans plusieurs dizaines de communes. C'est une décision de la préfecture qui ne fait vraiment pas l'unanimité. Autre proposition qui, elle aussi, est très loin de faire l'unanimité. Faut-il ou pas laisser les jeunes se contaminer entre eux ? Le pari est évidemment très risqué. Les Suédois l'ont tenté au printemps, ça ne leur a pas réussi. Presque 2 ans, jour pour jour, après l'effondrement du pont de Gênes, qui avait coûté la vie à 43 personnes, l'Italie inaugure aujourd'hui même un nouveau viaduc au-dessus de la ville. C'est un record de construction, hein, moins de 2 ans. Et là encore, il y a un sujet de discorde, en particulier pour les familles de victimes. Et puis, à la fin de ce journal, direction Notre-Dame de Paris, où une étape très symbolique et très importante aussi du chantier de rénovation démarre aujourd'hui, le démontage de l'immense orgue.
Radio Classique.
Mélina, c'est très clair, hein, contre le coronavirus, le masque est plus que jamais de rigueur.
Et son port devient désormais obligatoire en extérieur dans l'espace public dans plusieurs communes, notamment 69 d'entre elles en Mayenne, soit les 2/3 du département. Il est, vous le savez, particulièrement touché par une recrudescence des cas de contamination. Cette mesure, décidée par le préfet, était déjà en vigueur dans certaines villes, Stéphane Genest.
Si la préfecture de Mayenne a pris un arrêté pour imposer le port du masque dans 69 communes, certaines municipalités ont déjà pris cette décision depuis plusieurs semaines. C'est le cas à Laval, où il est obligatoire de porter le masque sur les marchés et dans les lieux publics depuis début juillet. Florian Berco en est le maire.
L'idée, c'était effectivement de casser les chaînes de contamination du virus et donc de s'attaquer aux endroits où il y a le plus de circulation de personnes pour éviter que le virus circule. De toute façon, il va falloir s'habituer à porter le masque. Donc, il paraissait effectivement étonnant que de passer d'un commerce à un autre, on pouvait enlever le masque. Ça permet d'avoir une règle concrète, cohérente, le cap est fixé.
Néanmoins, certains professionnels de santé restent perplexes sur ces mesures, comme le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre.
Ça peut s'avérer efficace dans certaines circonstances, mais après porter un masque dans une rue où on est éloigné des gens, porter un masque sur la plage, etc., ça n'a pas d'efficacité, ça ne sert pas à grand-chose. Je milite pour le port du masque en concentration de population sur un petit périmètre afin d'éviter de contaminer son vis-à-vis.
Malgré ces différents avis, pour le préfet de Mayenne, cette mesure est justifiée et l'objectif reste le même, enrayer la diffusion du virus. Dans ce département, le taux d'incidence est de 111 cas pour 100 000 habitants, soit plus du double du seuil d'alerte.
Un reportage de Stéphane Genest pour Radio Classique. Et il n'y a pas qu'en Mayenne que le masque devient obligatoire dès aujourd'hui dans l'espace public. Les municipalités de Bayonne, de Biarritz ou encore de Lille ont pris la même décision. Lille, où se rendra aujourd'hui Jean Castex, justement pour encourager au port du masque. Le Premier ministre qui a visité hier soir une plateforme du SAMU social à Paris, il a fait part de son inquiétude face au nombre très important de cas de Covid chez les sans-abri.
Alors comment éviter une éventuelle deuxième vague de la pandémie ? Personne n'a véritablement la réponse, mais certains proposent des solutions parfois surprenantes.
Plusieurs médecins voudraient miser sur ce qu'on appelle l'immunité collective, comme ce qui a été fait en Suède, notamment en laissant les jeunes se contaminer entre eux. C'est la stratégie que propose par exemple l'infectiologue Eric Combe, à condition, dit-il, que les jeunes en question ne fréquentent plus leurs aînés. Le pari est trop risqué, estime Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France.
C'est une idée qui est séduisante, mais c'est une idée très risquée parce que on a vu ce qui s'est passé en Suède avec la difficulté qu'on peut avoir de mettre à l'abri les personnes fragiles. Il n'y a pas que les personnes âgées, il y a les diabétiques, il y a les obèses, il y a les gens qui sont en chimiothérapie, les gens qui prennent des médicaments immunosuppresseurs. Donc ça fait beaucoup de monde et on a vu que la Suède, comparée aux autres pays nordiques, a eu un taux de mortalité supérieur de 3 voire 8% par rapport à la Norvège. Il y a un fort risque d'encombrer sérieusement la réanimation et un fort risque de déborder une fois de plus. Donc le pays ne peut pas se permettre un deuxième confinement massif.
Jean-Paul Hamon au micro de Rémi Pfister. Une information de dernière minute. Un cas de Covid-19 a été détecté à bord d'un bateau de croisière en Polynésie française. Résultat, 340 personnes sont confinées à bord. Le paquebot appartient à la compagnie française Ponant. Selon les derniers chiffres, plus de 18 millions de personnes ont été contaminées dans le monde depuis le début de l'épidémie, un quart d'entre elles rien qu'aux États-Unis, le pays toujours le plus touché, que ce soit en nombre de cas ou en nombre de morts.
Radio Classique, le journal. Mélina Fachin.
Si vous comptiez acheter une nouvelle voiture, plus propre si possible, sachez que la prime à la conversion est revue à la baisse à partir d'aujourd'hui.
Après la crise sanitaire, le gouvernement avait lancé un plan massif de soutien à l'automobile. Il avait notamment gonflé ce dispositif d'aide qui permet de remplacer son vieux véhicule par un neuf, moins polluant. Beaucoup d'acheteurs ont ainsi pu bénéficier de remises exceptionnelles ces dernières semaines, parfois jusqu'à 5000 euros. Désormais, l'aide sera plutôt de 1500 à 3000 euros, Émilie Vallès.
La prime à la conversion exceptionnelle lancée le 1er juin a apporté un vrai bol d'oxygène à la filière automobile totalement à l'arrêt pendant le confinement. Le quota de 200 000 voitures a été atteint plus vite que prévu, mais le gouvernement ne pouvait pas poursuivre l'aide en l'état, explique Arnaud Aimé, spécialiste du secteur pour le cabinet Sia Partners.
Ça obère trop les finances publiques de continuer sur le même dispositif, donc il faut le limiter. L'idée était de ne pas le supprimer non plus pour permettre un atterrissage en douceur. Les aides passées, ça a permis d'écouler les stocks. Par contre, il fallait continuer à ce qu'il y ait des aides, même moindre, pour que les usines puissent continuer à tourner, notamment sur la production de véhicules hybrides électriques.
Le Conseil national des professions de l'automobile le reconnaît. Les commandes de véhicules éligibles à la prime vont nécessairement baisser avec ces nouvelles conditions. Mais il salue le recentrage social. Francis Bartholomé, son président.
On a aussi besoin d'aider de plus en plus nos compatriotes qui ne peuvent pas tous systématiquement acheter des véhicules neufs pour rouler propre. C'était important que ça puisse continuer. Derrière ça, on est accompagné souvent par des taux de crédit extrêmement bas. On est accompagné par les banquiers, par les assureurs. Donc on voit bien que tout ça, c'est un tout qui se met un peu en place et qui globalement permet la réussite de ce plan.
Et notez que seront également éligibles à la prime les personnes qui souhaitent transformer un moteur thermique en moteur électrique.
Les précisions d'Émilie Vallès. À noter que les immatriculations de voitures neuves sont reparties à la hausse en juillet, plus 4%.
De cela aussi, nous parlerons dans une dizaine de minutes avec l'invité de la rédaction, Dominique Carlac, qui est vice-présidente du MEDEF et porte-parole également du MEDEF. L'actualité à l'étranger, Mélina Fachin, c'est d'abord et avant tout le retour de la première navette SpaceX.
The SpaceX and NASA teams, welcome back to planet Earth and thanks for flying SpaceX.
Les deux astronautes de la NASA qui étaient partis vers la station spatiale internationale il y a 2 mois ont retrouvé la terre ferme hier soir. Ils ont atterri au large de la Floride. Mission réussie de bout en bout donc pour Elon Musk, le fondateur de SpaceX, la première société privée à envoyer des hommes dans l'espace. En Floride, toujours, la tempête tropicale Isaias s'est rapprochée des côtes hier. Elle risque de provoquer des vents violents et des inondations, mais elle ne devrait pas redevenir un ouragan. En revanche, l'inquiétude est toujours très vive à une centaine de kilomètres de Los Angeles. Un immense incendie a déjà ravagé plus de 8000 hectares ces 3 derniers jours. Les milliers de pompiers sur place peinent à le maîtriser.
En Italie, quasiment 2 ans, jour pour jour, après l'effondrement épouvantable du pont de Gênes, le nouveau viaduc va être inauguré aujourd'hui.
Le 14 août 2018, 43 personnes trouvaient la mort dans cet effroyable drame. Le pont, le nouveau pont, conçu par l'architecte Renzo Piano en un temps record, doit permettre de tourner la page, espère les autorités italiennes. Mais pour les familles de victimes, cela n'efface absolument rien. Alexandre Ravasi.
90 mètres de haut, 1060 de long, le nouveau pont à l'entrée de Gênes est impressionnant. Pour son inauguration, les présidents de la République et du Conseil sont là, mais pas le comité des familles des victimes. Egle Possetti en est la présidente.
Toute cette envie de fête est pour nous un coup au cœur et il continuera probablement après la journée d'inauguration. Nous n'acceptons pas que ce nouveau pont soit considéré comme le moyen de passer à autre chose, car il est né d'une tragédie et personne ne doit l'oublier.
Les familles se rassembleront le 14 août prochain pour le 2e anniversaire de la catastrophe, en attendant l'ouverture d'un procès qui vienne faire la lumière sur les faits.
La justice est un objectif fondamental pour combler les injustices. Ça ne pourra pas faire disparaître nos blessures, mais ça permettrait d'avoir confiance en nos institutions. Le parquet fait un travail énorme et nous ne pourrons aller de l'avant sans que les responsables ne soient sanctionnés.
Le nouveau pont a été dessiné par l'architecte Renzo Piano, lui-même originaire de Gênes et donc touché par la catastrophe.
J'ai toujours beaucoup aimé l'ancien pont. Je venais ici quand j'étais enfant. Cette tragédie a accompagné les plus de 1000 personnes qui ont travaillé sur ce chantier. Ils ont été habités par une fierté, un sentiment d'appartenance, mais aussi cette conscience que tout est parti d'une tragédie.
Une tragédie qui a coûté à la famille Benetton sa participation dans les autoroutes italiennes. Elle a été contrainte de vendre ses actions il y a 2 semaines.
Reportage d'Alexandre Ravasi.
Et c'est aujourd'hui, Mélina Fachin, que débute la dépose du grand orgue de Notre-Dame de Paris.
Il avait été relativement épargné lors de l'incendie de la cathédrale en avril 2019, mais il doit tout de même être nettoyé, restauré avant d'être réinstallé. Il y a quand même, Bernard, 8000 tuyaux à démonter d'ici la fin de l'année. L'objectif pour le général Jean-Louis Georgelin, le président de l'établissement public chargé de reconstruire la cathédrale, c'est de rebâtir le majestueux instrument à l'identique.
Depuis le début, j'attends avec impatience le moment où on réentendra cet orgue merveilleux de la cathédrale Notre-Dame de Paris résonner sous ses voûtes. Je le connais bien, je l'ai entendu souvent. J'adore écouter les grandes toccatas de Bach à Notre-Dame. Cet orgue a une résonance tout à fait particulière, cette forme très puissante. Et puis une cathédrale sans son orgue, elle est muette. Dans une cathédrale, tout est fait pour élever l'âme. L'architecture, les vitraux, l'orgue, tout cela concourt à élever l'esprit et l'âme. Et je crois qu'on attend tout avec impatience d'entendre encore cette orgue vibrer sous les voutres construites de Notre-Dame. J'ai toujours parlé d'un Tédéum. Pourquoi ne pas avoir une création contemporaine à l'occasion de cette réouverture de la cathédrale au culte ?
Pourquoi pas, hein, du contemporain ? C'est une bonne idée. Absolument. Le général Jean-Louis Georgelin s'exprimait au micro de Sarah Lou Bacouche. Et vous reconnaissez peut-être en fond sonore la toccata et fugue de Bach. C'est le choix de Mélina Fachin, en tout cas. Merci Mélina. Vous revenez dans 20 minutes à peu près pour le rappel des titres de 8h30 pour l'heure sur Radio Classique. Il est 8h11 exactement. Bon réveil avec nous dans le prochain quart d'heure, politique et économie. D'abord avec Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine, avec son édito. Et ensuite avec Dominique Carlac, qui est vice-présidente et porte-parole du MEDEF.